Amandine Bégaud, RTL Matin jusqu'à 9h.
Et le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
Bonjour Amandine, bonjour Yves et bonjour à tous. 90 minutes pour tout renverser et s'offrir le droit de rêver. Le Paris Saint-Germain joue ce soir pour une place en finale de Ligue des Champions. Demi-finale retour face à Dortmund. Ce sera à vivre en intégralité sur RTL. Les Parisiens ont perdu 1-0 au match aller, mais cette fois ce sera chez eux, dans un Parc des Princes plein à craquer. Et les supporters ont l'intention de peser sur cette rencontre, Nicolas Georgiou.
Les supporters promettent une ambiance de folie, un Parc des Princes incandescent. Jérémy sera dans le virage Auteuil ce soir et il croit plus que jamais son équipe capable de renverser Dortmund.
Il ne faut pas non plus avoir peur, on est quand même meilleur sur le papier, meilleur sur le terrain, maintenant on reste à jouer. Tout est à faire, maintenant on va les supporter, on va essayer d'être le 12e homme, en espérant qu'ils nous ramènent une victoire au bout.
Depuis jeudi, l'état-major du club parisien, les supporters réfléchissent à la façon de rendre la soirée spectaculaire. Certains ultras iront dans la tribune Boulogne pour que les deux virages se répondent. La ferveur peut jouer un rôle dans cette demi-finale retour, selon le gardien Gianluigi Donnarumma.
On a des supporters incroyables. Pour nous, c'est important. Pour nous, avoir les supporters toujours, ça, c'est très important.
L'atmosphère électrique du parc ne fait pas tout. C'est loin d'être une forteresse imprenable en Ligue des Champions. Dans les matchs couperets depuis 12 ans, le PSG n'y a gagné qu'un tiers de ses rencontres.
Voilà, PSG Dortmund, coup d'envoi 21h, ce sera à vivre en intégralité bien sûr dans RTL Foot, soirée spéciale dès 20h avec Eric Silvestro.
L'espoir est vite retombé dans les rues de Rafah.
Où l'on a vu des milliers d'habitants se serrer dans les bras hier soir lorsque le Hamas a donné son feu vert à un accord de cessez-le-feu. Sauf qu'en l'état, cet accord ne convient pas à Israël qui a multiplié cette nuit les frappes sur Rafah. Elles ont fait au moins 11 morts selon un hôpital local. L'armée israélienne n'a pas renoncé à son offensive terrestre sur cette ville du sud de Gaza où s'entassent 1,5 million de réfugiés. Des dizaines de milliers d'entre eux ont commencé à évacuer. Aurélie Godard de Médecins Sans Frontières redoute une catastrophe humanitaire.
Ils vivent déjà dans des conditions absolument abominables, dans des tentes, sur chaque bout de trottoir, les ronds-points, des gamins qui courent pieds nus dans des monceaux de déchets dehors, sans accès à l'eau, etc. Donc ça sera encore pire. Oui. Et puis il y a des hôpitaux qui sont dans ces blocs à évacuer. Qu'est-ce qu'ils font de leurs malades? Où est-ce que ces malades vont? Est-ce que l'hôpital va être protégé? Et là, il reste un petit mouchoir de poche qui tenait debout plus ou moins et dont on a bien peur qu'il soit écrasé au rouleau compresseur avec pertes et fracas, incluant les civils à l'intérieur.
Un propos recueilli par Gauthier Delon-Bugard. RTL vous expliquera juste après le journal de 8h pourquoi l'armée israélienne a fait de Rafah sa prochaine cible. J'ajoute enfin que les pourparlers en vue d'une trêve doivent reprendre aujourd'hui. Depuis 7 mois, cette guerre au Proche-Orient n'a cessé d'alimenter l'antisémitisme chez nous en France. 366 faits recensés au cours du premier trimestre de cette année. C'est 4 fois plus que l'an dernier sur la même période. C'est alarmé hier soir Gabriel Attal. C'était lors du dîner du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France.
La haine antisémite a commencé à se déchaîner immédiatement le jour même du 7 octobre. Aujourd'hui, cette vague ne s'arrête pas. Elle continue à déferler. Personne ne peut nier cette déferlante antisémite. Personne ne peut nier le fait qu'on estime que les Français juifs représentent 1% de la population française, mais que plus de 60% des actes antireligieux sont des actes antisémites.
Le discours de Gabriel Attal, propos capté par Marie-Bénédicte Thaler. Emmanuel Macron, lui, s'offre aujourd'hui une escapade dans les Pyrénées avec Xi Jinping, deuxième et dernier jour de la visite d'État du président chinois. La venue du président chinois, très critiquée par Raphaël Glucksmann, qui sera l'invité d'Amandine Bégaud dans moins de 10 minutes sur RTL. À un mois des européennes, l'écart se resserre encore entre la candidate macroniste Valérie Ayé et le candidat PS Place Publique. 15% d'intention de vote pour la première, 14% pour le second. Dans notre dernier sondage hebdomadaire, Toluna Harris Interactive pour RTL, M6 et Challenge, le Rassemblement National, lui, reste loin devant avec 31%.
Un livre à la main, les lunettes au bout du nez, l'œil souvent rieur, il nous a fait partager sa passion des lettres et des auteurs pendant 25 ans à la télévision.
Bernard Pivot est mort hier à l'âge de 89 ans, présentateur d'Apostrophe, puis de Bouillon de Culture. Il a reçu Kundera, Solzhenitsyn, Gainsbourg, Duras, Brassens, gourmand des mots, il aimait aussi le vin et la gastronomie. Comme un clin d'œil au Beaujolais où il aimait se ressourcer. Reportage de Raphaël Vantard à Quincier.
C'était son coin de paradis, entre les vignes du Beaujolais, entre les lignes des romans qu'il dévorait. C'est ici que Bernard Pivot passe d'abord une partie de sa jeunesse pendant la guerre, avant d'en faire son coin refuge une fois célèbre, auprès du maire de Quincier en Beaujolais, Daniel Michaud.
Bernard Pivot, c'était un véritable enfant du village. Il y a fait ses années scolaires à l'école communale et puis il venait très très souvent ici. Il aimait le village, son village, Quincy-en-Beaujolais, le Beaujolais, le vin, tout simplement.
Chaque fois qu'il s'extirpe de Paris, Bernard Pivot ramène à Denise et aux autres bibliothécaires de Quincy-en-Beaujolais des livres pour une médiathèque qui porte aujourd'hui son nom.
Il arrivait tous les ans avec ses sacs de livres et puis après, le maire a suggéré qu'on lui donne le nom de Bernard Pivot à cette bibliothèque puisqu'elle était un petit peu à lui, quoi. C'était Bernard.
Elle habitait en face de Bernard Pivot Fleur et ses deux frères sont très émus par la disparition de l'enfant du pays.
Quand on le voyait de temps en temps à la boulangerie, à la boucherie ou à la cave coopérative, c'était salut Bernard, quoi. Enfin, c'était vraiment quelqu'un de très très naturel, vraiment impliqué, et je trouve ça vraiment chouette.
Amoureux du Beaujolais, Bernard Pivot possédait ici un hectare de vigne, une cuvée porte même à jamais son nom à la coopérative du village.
La cuvée Bernard Pivot, oui. Merci beaucoup Raphaël Vantard.
Je sais pas pourquoi, quand on prononce le mot Beaujolais, on se sent tout de suite mieux. Merci beaucoup.